Je vous propose de suivre ce matin un court récit de l'Ancien Testament qui évoque la vie du prophète Samuel. En quelques versets, la Bible nous propose ainsi comme un itinéraire que l'on peut essayer de suivre, eh bien pour ressourcer son existence, comme on pourrait dire maintenant, ou en tout cas l'enrichir chaque fois à nouveau. Alors, c'est dans le premier livre de Samuel, donc, au chapitre 7, les versets 15 à 17, que nous avons le récit de cet itinéraire de Samuel. Samuel fut gouverneur en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire un circuit, passant par Bethel, par Gilgal et par Mitzpah. Il gouvernait Israël dans tous ces lieux, puis il retournait à Rama où était sa maison. Et c'est là qu'il gouvernait Israël, et c'est là qu'il avait bâti un autel à l'Éternel. Alors c'est sur ce texte que je vous proposerai de réfléchir quelques instants tout à l'heure, mais en attendant, je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 10, les 9 premiers versets, où Jésus nous raconte une très courte parabole, la parabole du bon berger et la parabole de la porte. En vérité, nous dit Jésus, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, il appelle les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix d'un étranger. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent rien à ce qu'il leur disait. Jésus leur dit alors, « en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter au psaume 84 dans le psautier français, ce psaume « Dans ta maison, je suis heureux ». Donc psaume 84, les deux premières strophes de ce psaume.
Thank you.
Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de force. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant nos frères et sœurs. Seigneur, de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute d'une parole neuve que tu voudras bien adresser à chacun d'entre nous, directement au plus profond de notre cœur. Alors dans ce court récit du livre de Samuel, nous avons le détail de l'itinéraire que Samuel suivait chaque année, un itinéraire bien établi qu'il suivait fidèlement. Il faisait chaque année le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, puis il retournait chez lui, à Rama. Les étapes de ce voyage font référence à des événements fondateurs de l'histoire du peuple hébreu. Chacun de ces lieux a d'ailleurs reçu explicitement son nom à cette occasion, à l'occasion de cet événement, pour rappeler de génération en génération ce qui s'est passé à cet endroit-là. Alors ce n'est pas tant l'événement historique qui importe ainsi, mais c'est une façon de rappeler ce qu'a fait Dieu ce jour-là, et donc c'est une façon, une sorte de catéchèse, une sorte de témoignage pour dire qui est Dieu, comment il agit dans notre existence et comment, à notre tour, nous pourrions agir avec nos frères et sœurs. Alors la Bible ne nous donne pas cet itinéraire de Samuel pour nous distraire, pour faire un peu couleur locale, nous rappeler un petit peu la géographie d'Israël. Mais c'est pour nous proposer de suivre Samuel dans un cheminement de foi, et un cheminement de service qu'évoquent ces différentes étapes. Et peut-être que Samuel faisait aussi cet itinéraire d'abord pour lui-même comme un ressourcement, mais aussi comme une catéchèse pour inviter chacun, eh bien, à avoir cette démarche de ressourcement, cette démarche de retour vers Dieu et de recentrement sur l'essentiel. Alors cette histoire, elle nous propose d'abord de nous mettre régulièrement en route, comme Samuel. Et ce premier point, je crois qu'il est essentiel. Samuel aurait pu rester bien tranquillement chez lui, à Rama. C'est sans doute ce que sa famille, son travail, ses petits loisirs, sa paresse lui demandaient de faire. Mais je crois que c'est extrêmement fécond de se bouger un peu ainsi régulièrement pour chercher à approfondir son être, à progresser dans sa foi et progresser aussi dans sa façon, eh bien, d'aimer les autres, de les servir, comme nous avons fait ce matin finalement en traversant peut-être Paris, eh bien, pour entendre on ne sait quoi, mais au moins pour faire une place dans son existence à une certaine espérance. Alors le premier lieu, c'est Bethel. Bethel, ou la présence de Dieu, la porte des cieux. Alors ce lieu, c'est peut-être le plus facile, et si je vous avais demandé qu'est-ce qui s'est passé à Bethel, la plupart d'entre nous auraient peut-être su, parce que c'est un des récits les plus connus de l'histoire de nos patriarches. Ce lieu a été appelé Bethel, la maison de Dieu, explicitement dans ce récit où Jacob, vous savez, voit une sorte d'échelle dans un songe avec des anges qui montent et qui descendent. Jacob dit alors, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. » Et il dresse alors une pierre pour témoigner de cette réalité de Dieu qui l'accompagne et pour rendre un culte à Dieu et lui dire sa louange. Et donc Jacob, il a découvert à cet endroit la présence de Dieu auprès de lui, alors qu'il est en train de partir, de quitter. Il découvre que la prière est possible, que l'on peut dire à Dieu ce que l'on a sur le cœur, et c'est cela, les anges qui montent finalement, lui dire ce que l'on est, ce que l'on pense, ce que l'on craint. Et puis, les anges qui descendent, eh bien, ça évoque cette présence de Dieu qui descend comme une force, comme des idées, comme une espérance nouvelle. Alors Samuel connaissait, bien sûr, l'histoire de Jacob à Bethel. Eh bien, la première étape de son cheminement consiste à personnellement approfondir cette expérience de Jacob, à s'ouvrir à une expérience personnelle, finalement, de cette présence de Dieu, de cette relation intime avec son Dieu. Et comme ce n'est pas toujours facile, il est bon de passer par les prières, par les pierres qui ont été dressées par d'autres avant nous, d'autres qui nous ont précédés dans la foi, pour se rappeler que oui, c'est possible, que Dieu est présent à nos côtés. Et les hommes et les femmes qui ont rencontré Jésus ont témoigné avoir vraiment senti, grâce à lui, et même en lui, cette proximité de Dieu sur leur route, cette présence, cette porte ouverte vers les cieux. Et nous le voyons dans l'Évangile selon Jean, cette porte des cieux qu'est le Christ. Ce n'est pas seulement une porte pour entrer en relation avec Dieu, ce qui est déjà effectivement pas mal, mais c'est une porte qui marche dans les deux sens. Une porte pour entrer et pour sortir à sa guise. Une porte pour entrer dans la présence de Dieu, mais aussi une porte que Dieu tient ouverte pour que nous puissions sortir et aller dans le monde, aller vers les autres. Quand Jésus-Christ nous dit qu'il est cette porte, ce n'est pas pour se vanter lui-même, mais c'est pour témoigner de son expérience, pour nous dire que cette porte des cieux, ce n'est pas une église, ce n'est pas un rite, ce n'est pas même la Bible ou les prières ou je ne sais quoi, ce n'est pas le savoir des théologiens, mais cette porte, c'est de savoir Dieu si proche qu'il vient même en nous, à l'intérieur de nous-mêmes, et donc que nous sommes la porte de Dieu pour le monde. À notre mesure, nous sommes cette porte puisque Dieu vient faire sa demeure en nous, que nous sommes Bethel finalement, la porte des cieux, la demeure de Dieu. Il vient mettre en nous sa présence active, sa présence éternelle, et donc nous sommes cette porte quand nous faisons un peu avancer les choses, quand nous nous aimons un peu les uns les autres, comme le Christ nous a aimés. Nous sommes la porte quand nous parlons à Dieu de nos proches, quand nous témoignons de Dieu à nos proches, quand nous faisons ainsi circuler cette parole, cette présence de l'un à l'autre. Oui, en passant par notre Bethel, nous faisons étape pour chercher une fois encore la présence de Dieu, pour la reconnaître en nous, pour chercher cette porte du royaume de Dieu, cette porte qu'est peut-être notre frère à notre côté, pour chercher cette porte qui nous permet d'aller vers Dieu, et puis cette porte qui nous permet d'aller aussi vers l'autre en vérité, et d'être dans une liberté d'aller et de venir vers l'un et vers l'autre. Parfois, dans cette recherche, une nouvelle expérience de Dieu peut se faire sentir un pas de plus dans notre libération, dans l'approfondissement de notre être. Et puis parfois, dans notre recherche de Dieu, dans notre passage par Bethel, eh bien, il ne se passe rien. Souvent, nous avons cherché Dieu sans avoir l'impression de le rencontrer, de le sentir, ou sans avoir l'impression d'avancer tellement. Mais ça fait rien. Dans les deux cas, nous ne sommes pas passés par Bethel en vain. Si nous avons pu avancer à cette occasion, eh bien, marquons cette étape d'une pierre nouvelle, d'une pierre de plus dressée qui s'ajoute à notre mémoire pour nous aider à témoigner, pour nous souvenir et pour rendre un culte à Dieu de ce temps de grâce. Et puis, quand rien ne se passe, quand nous cherchons à sentir la présence de Dieu et que nous ne sentons rien, eh bien, regardons les anciennes pierres, souvenons-nous du témoignage des autres, souvenons-nous peut-être de nos propres souvenirs, de notre propre expérience de Dieu passée, si nous avons eu la chance d'en avoir conscience, et que cela, en tout cas, nous porte encore à la louange et nous permette d'approfondir notre être dans cette démarche. Voilà la première étape que nous propose Samuel, de passer par Bethel. La deuxième, c'est de passer par Gilgal. Alors cet endroit est connu dans la Bible comme le lieu où les Hébreux entrent enfin dans la terre promise, traversant miraculeusement le Jourdain à pied sec. C'est donc là encore une étape fondamentale de l'histoire des Hébreux, puisque symboliquement, mettre les pieds dans la terre promise, ce serait pour nous mettre le pied dans le royaume de Dieu, ce qui nous est promis pour aujourd'hui et maintenant. Alors quand Josué et les peuples hébreux traversent le Jourdain à pied sec, Josué leur dit de ramasser une pierre dans le Jourdain, au milieu donc de ces fleuves mis à sec par Dieu, que chaque tribu ramasse une pierre et que de ces 12 pierres, ils puissent construire ainsi un autel. Et il appelle cet endroit, cet autel, Gilgal, la roue, en mémorial de ce prodige que Dieu fait devant le peuple pour ouvrir une route vers le lieu de la bénédiction. Alors qu'est-ce que ça ajoute de passer par Gilgal après être passé par Bethel? C'est que Bethel, il évoque la présence de Dieu, la mystique finalement. Ça évoque la tendresse de Dieu comme une mère, une tendre maman qui nous accompagne. Bethel évoque la possibilité d'être vis-à-vis de Dieu comme avec un ami, avec, que l'on va voir en passant, eh bien pour discuter un peu finalement, comme le fait Jacob. Gilgal, lui, ça évoque la force de Dieu, les prodiges qu'il fait pour nous permettre d'avancer, et d'avancer tous ensemble vers cette vie supérieure qu'il nous propose. Et donc, les deux sont importants. Bethel évoque la tendresse de Dieu, mais Dieu n'est pas qu'une tendre maman, il est aussi une prodigieuse force pour créer, pour avancer, pour faire évoluer, pour nous libérer. Et puis Dieu n'est pas qu'une demeure, il n'est pas qu'un cocon, il n'est pas qu'un lieu de repos. Il n'est pas qu'une porte pour entrer et pour sortir à notre guise. Mais Dieu, nous dit Gilgal, est comme une roue formidable qui nous permet d'avancer. Il est comme un moteur, il est comme une prodigieuse capacité à surmonter les obstacles, à passer par-dessus des obstacles qui auraient été absolument infranchissables à nos seules forces. Et puis Gilgal nous rappelle que Dieu n'est pas que notre petit Dieu à nous, notre petit Dieu de la prière intime dans notre chambre, le Dieu de notre relation directe avec Dieu, mais qu'il est aussi le Dieu qui a pour projet de faire avancer un peuple tout entier, les 12 tribus entières, soudées, qui traversent la mer Rouge, qui traversent le Jourdain, de libérer un peuple entier de donner une vie nouvelle à l'ensemble et de faire de nous tous une humanité qui est unie comme un corps. Dans ce domaine, nous avons particulièrement besoin que Dieu opère des miracles, des prodiges, car les forces humaines ne suffisent pas. Nos qualités individuelles sont certes merveilleuses, mais l'ensemble de nos individualités aurait plutôt tendance à évoluer vers le chaos plutôt que vers un corps. Eh bien, Gilgal, c'est le lieu de la mémoire collective, puisque chacun y a mis sa pierre, la mémoire collective de ce que Dieu a déjà fait pour nous sauver ensemble. Des avancées prodigieuses ont eu lieu dans notre propre histoire. Il y a eu au moins cette avancée prodigieuse qui nous a été donnée en Jésus-Christ, mais il y en a plein d'autres dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de nos familles, dans l'histoire de notre Église et dans notre propre histoire. Eh bien, comme ce matin, allons de temps en temps visiter cette mémoire pour rendre grâce à Dieu, mais aussi pour bien assimiler le fait que Dieu est un Dieu de libération prodigieuse, car il y a là une promesse et un appel. C'est une promesse car Dieu est fidèle. Aujourd'hui comme hier, il peut ouvrir devant l'humanité des routes nouvelles. Et c'est un appel à espérer ensemble, à s'engager ensemble dans le bon sens, sans crainte. Dieu fera le reste. Bien des obstacles ont déjà été franchis, bien des libérations, bien des retours, bien des réconciliations, bien des prises de conscience. Et donc il est bon de nous ouvrir à ça, de remercier Dieu et de prendre courage. Il est bon à Gilgal de poser aussi parfois, enfin, notre propre pierre pour pouvoir donner notre témoignage et rendre à Dieu un culte. Voilà les deux premiers lieux. Il y en a encore un troisième, Mitzpah. Alors c'est moins connu dans l'histoire de la Bible, bien sûr, car c'est juste en passant, mais cela ajoute encore une étape supplémentaire dans cette démarche que nous propose Samuel. C'est quand Jacob fait alliance avec son beau-père. Il dresse un gros tas de pierres sur la frontière entre leurs deux territoires. Et la Genèse nous raconte que l'on appelle cet endroit Mitzpah parce que Laban dit alors à Jacob « Que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons perdus de vue. » Et donc Mitzpah évoque cette confiance que nous avons en Dieu pour nous protéger de l'ennemi, pour protéger notre terre sainte, pour protéger notre domaine finalement, pour protéger de l'ennemi. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur nous? Ça veut dire que Dieu peut ainsi, on confie à Dieu ainsi la garde de notre foi, de notre personnalité profonde, la garde de notre vie. Nous essayons de défendre notre être contre les ennemis qui s'appellent le découragement, l'égoïsme, le manque de foi, la paresse, la colère ou qu'importe, nous en avons tant. Et quand les forces humaines sont insuffisantes, nous avons alors besoin de l'aide de Dieu. Mais pour cela, il faut s'être préparé, je crois. Et donc il est bon d'apprendre, oui, à nous défendre par nos propres forces, à rassembler nos forces pour nous défendre nous-mêmes. Mais il est bon également de savoir que parfois, l'ennemi peut être plus fort que nous. Et donc nous pouvons nous préparer ainsi, par la mémoire, à compter sur l'aide de l'Éternel et à savoir qu'il peut être notre secours dans ces moments-là. Et donc compter sur l'Éternel, c'est avoir une saine et clairvoyante humilité. Parce que Mitzpah, c'est littéralement la tour de garde. C'est l'aide de Dieu pour que nous tenions bon, grâce à lui, face à l'adversité, aux frontières de notre être, aux frontières de ce qu'il y a de meilleur en nous. Samuel allait ainsi chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il gouvernait Israël en chacun de ces lieux, puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là, il gouvernait Israël, et là, il bâtit un autel à l'Éternel, nous dit le texte. Donc après cet itinéraire par Bethel, Gilgal et Mitzpah, il retourne à Rama. Mais ce lieu n'évoque absolument rien dans l'histoire d'Israël. Et c'est pourquoi, pour nous éviter de feuilleter fébrilement la Bible, eh bien, le texte nous dit qu'en fait, oui, c'est normal que ça ne nous dise rien, Rama, parce que c'était simplement l'endroit où habitait Samuel. C'était sa maison. Voilà pourquoi il y retournait. Eh bien, l'itinéraire de Samuel nous propose donc de quitter un instant notre maison, notre monde, pour chercher la présence de Dieu, pour compter sur son aide et pour se placer sous sa garde. Puis, il nous propose de revenir à nos petites affaires en étant simplement un petit peu enrichi, purifié, transformé par cet itinéraire. Alors, il n'y avait pas avant de lieu de culte à Rama. Quand Samuel revient de son voyage par Bethel, Gilgal et Mitzpah, il va y bâtir un autel. Et donc on voit qu'à ce moment-là, il y a un décloisonnement, il n'y a pas simplement le temps du ressourcement, du Shabbat ou du temps de Pâques. Et puis à côté, la vie quotidienne, non, les choses se mettent à s'interpénétrer. C'est-à-dire que dans sa vie quotidienne, il bâtit un autel pour continuer à rendre grâce à Dieu. Il a envie maintenant de célébrer l'Éternel dans sa vie quotidienne pour vivre et témoigner de ce qu'il a reçu à Gilgal, Bethel et Mitzpah, et puis en attendant d'y repasser plus tard pour recharger ses batteries et faire peut-être un pas de plus. Mais on peut remarquer aussi que tout au long de cet itinéraire spirituel, de ce temps de retraite, finalement Samuel prend le temps de gouverner Israël, c'est-à-dire d'agir pour les autres. Il ne le fait pas simplement à Rama, chez lui, dans sa vie quotidienne, mais aussi tout au long de son itinéraire spirituel. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire de servir les autres à Bethel, Gilgal et Mitzpah? Servir les autres comme si on était à Bethel, c'est être à notre mesure comme une pierre dressée, cette pierre dressée par Jacob, être un signe de la présence de Dieu. Et ça peut être aussi parfois être l'ange qui établit le premier contact entre quelqu'un et son Dieu. Servir les autres comme à Gilgal, c'est rassembler des personnes pour avancer ensemble, avec confiance dans l'aide de Dieu qui ouvrira pour nous réunir, des routes nouvelles, des passages prodigieux, selon sa promesse. Et puis aider les autres comme à Mitzpah, c'est les encourager à placer notre avenir sous le regard de Dieu pour qu'il nous garde. Et c'est peut-être aussi le regard vigilant de celui qui, par la foi, peut avertir de l'ennemi qui nous guette. Gouverner à Rama, ça évoque peut-être alors un service plus prosaïque, si vous voulez, inscrit dans la vie quotidienne des gens pour faire la paix, pour consoler, pour soigner, pour nourrir, pour visiter, pour enseigner, et aussi peut-être pour organiser le culte, un culte liturgique comme nous faisons ce matin. Eh bien, Samuel avance ainsi vers Dieu, il avance aussi avec Dieu, il avance seul, mais il n'avance pas sans les autres. Que l'Éternel nous bénisse ainsi et qu'il bénisse chacun d'entre nous. Amen. Thank you.